Actu SF, les podcasts.
Bienvenue. On va tâcher de répondre pendant cette heure à les éditions Léa. Comment ça marche? Et donc, pour démarrer, je te laisse te présenter.
Je suis au serveur.
Il est très pratique. Regarde, prends le micro.
Je dis depuis le temps que j'assiste aux différentes conférences et que je suis de votre côté. Maintenant, je suis là, je prends la bouteille. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Mossy, je suis le fondateur des éditions Léa. Et juste avant de commencer dans le vif du sujet, on voulait vous donner symboliquement ce que c'est que les éditions Léa. C'est un trailer qu'on a fait pour Simon Erickson au tout début de notre lancement. Peut-être que certains l'ont déjà vu, j'imagine, il a été pas mal vu à l'époque. Mais ça symbolise bien ce qu'on aime bien faire et un peu l'ambiance de la maison.
Le son est très faible, mais... Alors, pourquoi est-ce que ça symbolise tellement bien la maison?
Alors justement, peut-être que certaines et certains d'entre vous avaient vu ce trailer à l'époque. Ce trailer concerne la série Le Musée Martyr de Steven Erickson, qui est la série qui nous a permis de vraiment décoller très fortement sur le monde de la littérature imaginaire. Et il faut savoir qu'on a sorti le tome 1 en mai 2018, et là c'était pour la sortie du tome 2 en novembre 2018 de la même année. Donc à cette époque-là, Léa avait un an et demi à peine de création. Et bah, c'est un peu le côté un peu grandiose, fantasy folle. Ce trailer est fait uniquement sur la couverture du tome 1 du livre. Et on a fait appel à un créateur, à quelqu'un qui fait des films, etc. Et qui a réussi à séquencer la couverture en plusieurs tranches. Et c'est d'où cet effet de caméra arrière, on a l'impression de faire quasiment la 3D, alors que c'est sur la base d'une couverture normale. Et après, avec et on a rajouté quelques artifices visuels et sonores pour entrer dans l'ambiance du monde malaisien. Et voilà, c'est à l'époque, je pense que c'était probablement un des trailers les plus ambitieux qui était fait dans la littérature imaginaire. Enfin, je parle des univers indépendants qui me concernent, je ne parle pas des gens qui font Tolkien ou ce genre de choses, qui ont les moyens qui ne sont pas les nôtres. Du coup, là, ça représente parce que c'était une question de dire on se donne les moyens de vous proposer quelque chose qui est vraiment à la fois spectaculaire et qui demande.
Oui, puis c'était déjà une bonne idée, parce que maintenant on a plus l'habitude des trailers, mais il y a 4 ans, on commençait à les voir, et de fait c'était impressionnant, d'autant plus impressionnant.
Alors, comme d'entre nous, on parlait très franchement, j'aurais pas de langue de bois, donc je dis la chose telle que je pense. À l'époque, les trailers que je voyais partout ailleurs étaient franchement, c'était des gens des très 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 lents, qui ne bougeaient pas beaucoup, qui faisaient pas grand chose, et on voulait justement apporter une dimension un peu dynamique, un peu plus ambitieuse à un trailer. Ouais.
Alors, avant de démarrer concrètement, il y avait quelque chose qu'on voulait dire au cas où il y en a qui ont déjà envie de quitter la salle, c'est de poser d'emblée. Est-ce que tu prends des manuscrits envoyés par la poste?
Combien se lèveront si je dis non? Par la poste. Non. Alors, pour être très sincère, et déjà, premièrement, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je voulais dire au début, mais comme on avait des questions, est-ce qu'on passe le trailer, parce que pas le trailer, du coup, ça m'a échappé, mais merci beaucoup, c'est très sympa. Actuellement, on ne peut pas prendre les manuscrits parce qu'on est tellement débordé qu'on est incapable de les gérer. C'est pas une question de ne pas vouloir, parce qu'on a déjà lancé un auteur, déjà lancé des auteurs en premier roman, plusieurs. Donc c'est quelque chose qu'on fait et qu'on continuera à faire. Il y a une question de momentum qui fait qu'actuellement, on en parlera après. Mais on a un agenda qui est tellement monstrueusement chargé que c'est juste impossible à gérer. On est petite équipe, donc...
C'est là que je rebondis, en fait. Donc si on se retrouve ce soir à présenter les éditions Léa, c'est parce que voilà, une boîte qui existe depuis 5 ans et qui démarre très très fort. Okay. On l'a vu là avec ce grand succès. Et qui déjà voilà, bah, connaît un petit peu aussi les affres de ce succès et qui va devoir bouger un petit peu. On va en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, ça te permet de venir ici et de présenter un travail déjà d'une grande valeur et qui fait qu'au bout de seulement 5 ans, bah, tu as ta place ici pour présenter les éditions. Alors moi, je fais souvent les présentations des éditions et bah, c'est pas souvent en fait qu'on a une maison d'édition aussi jeune parce que en général, ça met plus de temps à se mettre en place. Et de fait, ma première question, c'est pourquoi, comment ça marche côté cuisine? Comment ça marche aussi bien en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce premier succès? Qu'est-ce qui fait que ça marche?
Si tu prends l'analogie de la cuisine, je dirais que c'est valable dans l'édition comme dans la cuisine. C'est beaucoup de l'huile de coude. C'est du travail. On travaille tous énormément. Julien et Lorraine qui sont là devant peuvent en témoigner. On est à la fois des passionnés, mais la passion ça ne suffit pas. C'est le travail qui compte. Donc on travaille énormément et c'est comme ça qu'on prend nos choses. Et concernant les imaginales, puisque tu évoques ça. Je vais même vous donner une confidence, c'est qu'à l'origine, on aurait dû même passer en 2019, en maison invitée.
Vraiment très très tôt.
Très tôt, parce que en fait, l'impact du livre des martyrs a été assez colossal dans le petit monde de littérature imaginaire, beaucoup marqué. Et vous savez, à l'époque, vous le savez peut-être pour certains, mais que c'est une série qui avait été plantée, on peut dire très gentiment, par deux fois par deux gros éditeurs, dont le dernier était Kalman Levy, donc c'est pas n'importe qui. Et que c'est une série que tout le monde avait étudié de près pour se dire quand même c'est un succès international, plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 20 langues, etc. Mais personne n'est allé. Bon, 10 tomes dont des pavés qui peuvent servir à caler des meubles ou à plein d'autres choses qu'à lire, c'est un peu impressionnant et c'est comme c'est le fameux dicton, tout le monde dans le village savait que c'était impossible, un étranger est venu, il l'a fait. C'est exactement ça. Et du coup, on a lancé à l'époque Steven Erikson aux Imaginales et c'était et je remercie Imaginales et Stéphane Nico qui nous ont soutenus dans ce lancement, c'était extrêmement important. Elle a aussi perçu le potentiel qu'il y avait derrière Steven Erikson et son œuvre. Et du coup, lancement s'est tellement bien passé qu'assez vite, il était question qu'on vienne faire cette séance-là en 2019 et plus tard, il s'est avéré que, pendant le gentiment, si j'acceptais de laisser ma place à quelqu'un d'autre, dont c'était l'anniversaire, quasiment l'anniversaire d'une maison assez connue et assez importante. Et j'ai évidemment accepté parce que c'est normal, c'est un événement qui me semblait important pour cette maison. Et je sais même pas si ça fait plaisir, parce que notre fois, c'est pas grave. Puis on passe maintenant.
Alors, en termes de carte d'identité, donc 5 ans d'existence, où est-ce qu'elles vivent les éditions Léa?
Alors, les éditions Léa, si je peux vous faire, ben, je vais raconter ma vie en œuvre, comme ça vous allez tous partir rapidement, ça va être sympa. Les éditions Léa, elles ont été créées sur la base suivante. C'est-à-dire, au départ, j'ai une carrière de journaliste et après de communicant. J'ai créé une agence de communication, j'ai fait 10 ans de journalisme, puis 10 ans de communication dans une agence que j'ai créée. Et à un moment donné, je me suis posé la question de la littérature imaginaire. C'est arrivé, je ne vais pas vous faire des tailles parce que c'est un peu trop long. Je me suis interrogé sur la littérature imaginaire en France. Je suis partie de cette génération qui a ouvert le chemin de l'imaginaire aux générations actuelles. Je veux dire, à l'époque, quand on parlait de. Dans mon adolescence, ma jeune adulte, quand on parlait d'orques, de trolls, de magiciens, de mixwing, de sabres laser, de Jedi dans le bus, les gens regardaient bizarrement, voire ils étaient très inquiets. Surtout quand je racontais des parties de jeux de rôle dans lesquelles j'étais en train de. Et j'avais tué des gens avec des boules de feu, etc. Et je ne les faisais pas rigoler. Maintenant, la culture geek, si on peut dire, les mainstream, c'est-à-dire on mange du Trône de Fer, on boit du Star Wars, on s'habille Harry Potter. Donc cette culture-là, 30 ans plus tard, elle l'a emportée. Et je trouvais que finalement, elle l'a emportée dans tous les domaines, sauf la littérature, quelque part. Elle était encore assez dénigrée, assez peu soutenue, assez peu portée. Et je me suis posé la question, alors je ne comprends pas pourquoi, c'est pas intéressant. Et du coup, j'ai étudié l'univers de la littérature imaginaire et je me suis rendu compte effectivement que autant c'est une littérature qui était riche, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à raconter, qui a emporté sur un tas de sujets, mais au niveau des livres, ça ne marchait pas très bien en termes de prise de risque, de communication, de plein de choses. Et dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit on va sur les réseaux sociaux et on dit ah, c'est dégueulasse, on ne nous aime pas, pourquoi hashtag je suis lecteur d'imaginaire super reconnu. Mais soit on fait quelque chose. Et moi, je ne suis pas du genre à me plaindre sur quoi que ce soit. Donc j'ai agi. Et ma façon d'agir, je me dis, tiens, j'ai une carrière de journaliste, j'ai une carrière de communication. Il y a peut-être moyen, avec ces outils-là, d'amener quelque chose de supplémentaire dans la littérature imaginaire. Parce qu'à titre personnel, elle m'a beaucoup apporté tout au long de ma vie. J'ai été un grand lecteur de littérature imaginaire. Là, je ne peux plus lire de littérature imaginaire, hormis sa compréhension, parce que les journées ne font que 24 heures, donc on peut lire un petit peu en plus, mais pas tant que ça finalement, pas tant de lire, autant qu'on voudrait. Mais je suis aussi un grand lecteur de Blanche, on est des auteurs, c'est Gilles, c'est Camus, etc. Et j'ai jamais fait de différence en me disant, tiens, la Blanche c'est bien, et la littérature imaginaire c'est pas bien. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des auteurs et des titres que j'aimais d'un côté, ou que je n'aimais pas, et pareil de l'autre côté. Et je me dis, mais pourquoi la littérature imaginaire est aussi dénigrée finalement, alors que elle a des qualités intrinsèques qui sont les mêmes que celles de la Blanche, alors avec des très bons livres et des très mauvais livres, on est d'accord, mais il n'y a pas de raison que tout soit de manière générale mal considéré. Donc partant de là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer une maison d'édition pour aller défendre le genre, et allons-y.
Pourquoi tu l'as appelé Léa?
Pendant très longtemps, j'ai pas voulu le dire, parce que c'était un sujet assez personnel, parce que quand on crée une entreprise, quelle qu'elle soit, trouver un nom, c'est très compliqué. J'ai pas créé beaucoup d'entreprises, j'en ai créé 3. Et à chaque fois, trouver le nom, c'était un sacerdoce et poser une question. Alors, maison d'édition, c'est quelque chose de beaucoup personnel pour une agence de communication, un truc. Et donc, tu cherches un nom, tu cherches. Quel sens tu veux lui donner? J'aime bien une connotation un peu féminine dans le genre, d'où l'œil qu'on a sur le logo. Et je cherche un nom désespérément, mais ça, c'est bien en amont de la création. Et je me suis dit à un moment donné, tiens, si j'agrégeais 4 lettres, et je les agrège, et je me suis dit, si j'agrégeais dans l'ordre logique, vous allez comprendre un peu pourquoi l'ordre logique. Et j'ai pris ces 4 lettres, je les agrégeais dans l'ordre logique, et je me suis dit, waouh, mais c'est un truc vachement bien. Pourquoi j'irais chercher un nom inventé ou comme ça, alors que j'ai 4 enfants, qui s'appellent Lucas, et Léa, Hugo et Antoine, L-E-H-A. Donc, tout simplement, Léa, c'est l'acronyme du nom des enfants.
Super. Et
c'est pour ça que je dis que c'était très personnel, parce que c'est... quand tu arrives de mon univers... moi, je ne viens pas du univers des fans hardcore de la littérature imaginaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est... Alors, personnellement, je suis un passionné de toi sans froid. J'ai des passions, mais elles ne sont pas brûlantes. Ce qui permet de faire des choses constructives, d'ailleurs. Parce qu'une passion brûlante, en général, ça crame assez vite tout ce qu'il y a autour. Donc, quand tu arrives dans cet univers-là, tu as des gens qui te voient et disent ouais, bon, c'est une danseuse, ceci, la personne-là. Non, moi je sais très bien, en créant Léa, juste le simple nom de ma maison d'édition, eux ne le savaient pas. Moi je savais que c'était autre chose qu'une danseuse et que c'était quelque chose pour créer un vrai lien et une bonne maison d'édition qui dure.
Et du coup, j'y arrive. De fait, chez Léa, il y a de la littérature pour adultes, vieillesse, et de la littérature jeunesse aussi.
Oui.
C'était une ambition d'emblée?
C'était, alors, je ne vais pas vous donner tous les secrets, mais dès la
création... C'est pas obligé.
Non, mais un certain nombre. Dès la création de Léa, je savais qu'il faudrait à un moment donné rajouter une composante langue adulte jeunesse. Je le savais. À un point tel que j'ai un de nos auteurs maison qui un jour me dit, ah, Jean-Philippe, je suis embêté parce que j'ai un projet de langue adulte, mais tu peux faire du langue adulte ou pas? Parce que j'ai une proposition par ailleurs. Alors très fidèlement, il voulait me le proposer. Et j'en sais fait. Et il me dit, écoute, je suis désolé, on fera du langue adulte jeunesse un jour, et je ne sais pas quand. Et fatalité, on a lancé la collection Young Adult jeunesse bien avant le, bien avant que son livre sorte. Parce que, et là on rejoint le côté un peu opportuniste avec le sens positif du terme. Opportuniste, c'est une opportunité, je vais essayer de dire. On était un jour mis en contact avec, avec le patron de Lynx, qui était un éditeur jeunesse, Hicham, qui, pour diverses raisons, voulait arrêter d'éditer des romans. Et partant de là, on a discuté que ça me permettait d'accélérer l'entrée dans la partie Young Adult jeunesse. On a du coup récupéré le fonds de Lynx. Et on a du coup lancé une activité, une collection de jeunesse à ce moment-là. Donc on l'a lancé, on l'a acquise en l'automne 2020, puis on l'a lancé en mars 2021. Donc 2017, lancement des livres de Léa, les premiers livres en juin 2017, donc on fera nos 5 ans dans quelques semaines. Étape très importante, mars 2018, arrivée de Julien Guéry pour nous aider dans notre développement auprès des libraires. Ça s'appelle la relation libraire ou la surdiffusion, suivant les termes. C'est quelque chose qui est très peu pratiqué par mes camarades. On va dire, il est un peu prétentieux de dire ces choses-là, mais c'est vrai. Je pense que beaucoup d'éditeurs, malheureusement, sont un peu plus sur plein de choses.
C'est un succès à un moment, enfin, si ça marche, c'est parce que tu as des recettes qui font que ça marche.
Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès le départ, j'ai regardé, je me demandais pourquoi ça ne marchait pas si bien que ça dans la littérature imaginaire, pourquoi il y avait des freins, il y avait des choses qui faisaient que ça ne fonctionnait pas aussi bien que ça le devrait. Et il y a un manque de un certain nombre de prises de risques, d'idées, de plein de choses. Et quand on a présenté Julien pour le lancement de Steven Erickson, on n'avait pas un an. Et maintenant, il y a pas mal d'éditeurs, plein de relations libraires. Et c'est très bien parce que c'est une bonne idée. Les libraires sont un maillon essentiel de notre univers et on les aime beaucoup. D'ailleurs, notre dernier livre paru qui s'appelle Les libraires gauchers de Londres, en italien, est un hommage aux libraires. Et du coup, même pas un an après notre création, on a intégré cette composante relation libraire. Et ça a contribué au succès de Steven Erickson.
D'accord. Et alors, dès le début, est-ce que tu as défini une ligne éditoriale assez précise? Parce que dans tes goûts littéraires, c'est assez éclectique. Et tu nous as bien montré que tu ne faisais pas de distinguo dépréciatif de la littérature blanche ou de tel ou tel type de littérature de l'imaginaire. Donc, est-ce que tu as défini d'emblée une ligne éditoriale et comment? Ou est-ce que tu prends en fonction de aussi ce qui te plaît même si c'est pas complètement dans la ligne?
Alors, les deux, mon capitaine. Quand on dit opportuniste, c'est vraiment le côté positif des choses. Je vais vous raconter une anecdote. C'est comment, enfin, au départ, quand on a créé Léa, mon idée principale, c'est de dire on va faire la littérature imaginaire du débutant à l'auteur hyper installé star. Pour donner l'exemple, qui n'est pas très connu, mais qui est une réalité qui m'épate encore aujourd'hui, le premier auteur qu'on a signé chez Léa, avec qui on a signé un contrat pour faire un roman, s'appelle Pierre Bordage. Voilà, donc notre tout premier auteur, c'est un petit jeune qui est dans la bulle là-bas, je te conseille, il a presque plus de livres, il faut en foyer vite. Hein. C'est Pierre Bordage. Alors, fort heureusement, on n'a pas attendu qu'il ait fini son livre pour commencer à publier les nôtres, parce qu'il a eu un peu de retard, parce qu'on a pris avec d'autres contrats qui sont passés devant le nôtre, je pense, parce qu'on était encore tout petit, mais c'est le premier auteur qu'on a signé. Et donc, notre objectif, c'était de dire, on va faire du auteur premier livre, premier roman, parce qu'on en a fait, on en fera, jusqu'à l'auteur français Pierre Bordage. Et donc d'ailleurs, au lancement de Léa en juin 2017, dans les deux auteurs qu'on a lancés, il y avait un auteur, Alexis Flamand, qui était un auteur qui avait déjà été édité, donc qui avait déjà une présence dans cet univers-là. Mais notre objectif avec ce genre d'auteurs qui sont déjà présents, mais qui ne sont pas assez justement à leur valeur, donc ils essaient de pousser, les aider à monter dans l'univers des auteurs. Et il y avait Éric Hamon, qui était un auteur totalement débutant pour le coup, qui était un premier livre. Alors ça, c'était en juin 2017, quand, quelques mois après, j'entre en contact avec des gens qui me parlent de Steven Erickson. J'avais vu passer quelques années auparavant Steven Erickson, et le pauvre, il avait fait à l'époque, à Manu, il avait fait une couverture, mais c'était atroce. Nicolas Marien, qui est là-bas, un des traducteurs, peut en témoigner. On m'a mis en contact avec justement Nicolas Marien, qui portait un projet de faire du grand retour de Steven Erickson en France. Nicolas est un très bon élément pour persuader les gens. Il m'a expliqué à quel point on avait intérêt à le faire, et j'ai étudié le sujet. Alors, autant vous dire que quand on a créé une maison d'édition, moins d'un an après, se dire on va se lancer dans une décalogie d'un auteur anglo-saxon, etc., c'est un peu fou. Et on est fou. Donc on est fou, mais on a quand même mesuré les risques. Les risques étaient énormes, c'est évident. Mais il y a l'univers dans lequel je venais, il y a aussi un grand dicton qui dit high risk, high return. Tu prends des gros risques, mais si tu réussis, bah, tu en tires les fruits. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tu viens pouvoir en témoigner, et Nicolas aussi, et Lorraine aussi. Le travail autour de Steven Axon pour que ça soit une réussite en France a été colossal. Mais du coup, l'éditorial au départ, je ne pensais jamais qu'on allait faire de la traduction un an après. C'était juste pas possible. Alors le fait est que mes casquettes précédentes m'ont permis de travailler assez intelligemment avec Penguin Random qui est l'éditeur de Steam. Et voilà, il faut oser dans la vie. Et quand tu oses, tu as un peu d'audace et puis. Et ça peut marcher, sur malentendu. Non, là, c'est pas sur malentendu, mais c'est une série qui méritait vraiment qu'on s'y attache, qu'on s'y intéresse. Je crois que ce que j'évoquais tout à l'heure, le manque d'audace des éditeurs français faisait qu'elle restait dans les cartons et c'était bien dommage. Honnêtement, c'est jamais nous qui aurons dû faire ça. Franchement. D'autres étaient bien mieux armés pour le faire, bien plus capables de le faire. Des grands acteurs de la fantasy en France, dans l'édition, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a quelques-uns, donc certains très gros, qui avaient largement les moyens de le faire, ils ont regardé le dossier, ils n'ont pas fait. Voilà. Tu viens, tu le fais, si tu te plantes, tant pis pour toi, et si tu réussis, tant pis pour toi.
Oui, il est content,
mais
là, ça va bien.
Mais si, le maintenant, est... Alors, si on revient sur Tim Erickson, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu à l'époque où ils ont participé, quand je dis que. Donc, pour réussir quelque chose comme ça, il faut de l'huile de coude, on dit tout à l'heure, énormément de travail, beaucoup d'idées pour enrichir. Donc, le trailer en faisait partie, il faisait faire un trailer. Le trailer a été vu à l'époque, on a eu 200 000 vues. Pour un trailer de fantasy, c'est pas ridicule, c'est plutôt rare. Il y a plein de choses qu'on a faites pour que ça marche. Et parmi ces choses-là, quelques mois auparavant, j'étais allé voir Stéphane et Nico en disant voilà, pour les films imaginales. Léa démarre, on a quelques auteurs, et on va sortir un auteur en anglo-saxon, Steven Axon, il lui racontait, il m'a dit, ah, c'est intéressant, hein. Je vais venir, et il était accueilli pour le lancement de Martyr Ottoman en mai 2018 ici. Il était accueilli à bras ouverts par le salon et par ses amis, il a fait un très beau discours d'accueil, et je remercie chaleureusement. Et à partir de là, a commencé à naître cette histoire entre Steven et les publics français. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a fait ce lancement, on a organisé une soirée à Paris avec des journalistes, des libraires, Instagram, enfin, etc. Et à cause de là, il y avait Jeanne Adebac, une de nos autrices aujourd'hui, mais qui est aussi directrice artistique du Utopia, qui était présente. Et j'en parle encore pour l'anecdote. Donc Steven était là, dédicacé des livres, discuté, etc. En anglais, parce qu'il ne parle pas du tout français, Steve. Et à un moment donné, Jeanne vient, m'attrape, me dit « Viens, j'ai quelque chose à te dire. » Oui. Elle m'a dit « Je ne vais pas te dire ce que c'est, mais il faut que tu me dises oui. » Oui, Jeanne, oui. Elle m'a dit, écoute, Steve est génial, c'est un type fantastique, je veux absolument l'avoir au prochain tutopial. C'est la première fois qu'un auteur étranger est invité la première année aux Imaginales et aux Utopiales.
Oh.
Ouais. Première, on fait beaucoup de premières. Pour information, Steve et Cam qui sont aujourd'hui aux Imaginales, on en parlera après, c'est la première fois ever de leur vie qu'ils font une tournée ensemble quelque part. Et on en est hyper émouvant et on est hyper fiers parce qu'ils ont déjà fait des salons ensemble aux États-Unis, etc. Mais c'est la première fois qu'ils vont faire un tour parce que vous l'avez peut-être vu, ils vont faire un tour avec eux pendant un mois. Et ça, c'est aujourd'hui, 4 ans plus tard. Mais 4 ans en arrière, au moment de ce trailer-là, Steve a été invité aux Utopiales. Et à cette occasion-là, on s'est dit, c'est l'occasion, il revient. C'est l'occasion, les Utopiales, c'est début novembre. On a le salon de Sèvres toute fin novembre. Ça serait bien qu'il le fasse aussi. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Allez, on fait un tour. Et là, on a fait un Steven Erickson tour mémorable. On a fait une douzaine de dates. On avait fait une carte façon Tour de France cycliste avec les trajets comme ça. Et je crois que ça crée un vrai lien avec un nouveau public. Et ça a vraiment créé quelque chose pour lui. Et il en est resté. Il en garde un souvenir extraordinaire. Et là, les deux, depuis, ils sont comme des gamins depuis des semaines. Ils disent, super, excité de venir pour le tour en France. C'est super. Donc, voilà, moi je trouve que l'édition, on est des passeurs, hein, on est des passeurs de livres, d'histoires, d'idées, de tout ce qu'on veut, mais on est aussi des passeurs de relations et quand on a la chance d'avoir des gens comme Steve et Cam qui sont extraordinaires, d'humilité, de gentillesse, de plein de choses, C'est bien de faire lire leurs œuvres, mais c'est aussi très bien de faire rencontrer au public.
Donc alors, du coup, tu publies de la fantasy, tu publies de la SF, tu publies du fantastique aussi.
Ouais. Ouais, c'est pour le côté opportuniste, ouais, encore une anecdote, parce qu'au début, je me suis dit, on va faire fantasy et SF. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un certain penchant pour la fantasy. On peut dire un penchant certain. Et ça se confirme, bon, c'est une réalité, on aime aussi la SF, pas de problème, mais on aime beaucoup la fantasy. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait la fantasy chez les éditeurs français et indépendants, donc ça tombe bien. S'il faut aller se frotter au gros, on n'a pas peur. Au gros, avec un X. Mais fantastique, j'ai pas prévu au départ. Sauf le jour où Philippe Tessier, qui est un de nos auteurs avec qui on fait Polaris, qui pour le coup c'est de la SF, vient me voir avec un texte qui ne rentrait pas dans ma éditoriale normalement, dans ma case. Ah, mais alors, c'est notre composante de chez Léa, j'aime bien de temps en temps qu'on fasse des livres avec un peu d'humour aussi. On a des livres très fantasy,
T'en lisais aussi, toi, t'aimais bien ça?
Ouais.
La fantaisie un peu burlesque, les histoires un peu humoristiques.
Oui, un petit peu, ouais. Et du coup, j'aime de temps en temps qu'on ait un livre un peu rigolo. Et donc, Philippe est arrivé avec un livre, ça s'appelle Mort, M-O-R-T-S. Et j'en parle encore la première phrase de ce livre, je me suis dit, on va le faire parce que. La première phrase, c'est alors qu'il venait de mourir, Joseph se réveilla. Et c'est bon. Et puis, j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, oui, c'est pas la fantaisie comme. Mais c'est tellement bon qu'on va le faire. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'éditorial, oui, elle est inscrite, elle est quand même une ligne assez précise, mais tu peux être sur une ligne, sur 80% de ta ligne, tu peux être totalement aligné, puis après, de temps en temps, il faut savoir faire un pas de côté aussi pour saisir des choses qu'on trouve vraiment sympa et pour le partager.
Oui, il y a Star Mars, il y a Mommy, il y en a d'autres en plus.
Oui, bah, alors si on prend le site d'Alamander d'Alexis Flamand, je crois que tu devrais écrire des pièces de théâtre parce que les dialogues dans ces romans sont très très drôles et Star Marx c'est une qui a reçu le prix ActuSF de l'Uchronie en 2009 et c'est une Uchronie dans laquelle on les soviétiques qui ont dominé la Terre dans les années 50 grâce aux extraterrestres qui ont ramené quelques technologies un peu pourries et non maintenant on va manger un burger chez les Minis, on boit du Coca-Cola puis après ils sont partis dans l'espace coloniser les pauvres planètes de la galaxie, ouais, c'est fait de manière totalement burlesque et parodique, donc c'est très drôle. On a fait un petit voyage en fait. Et si vous voulez, alors en URSS, en Union des Républiques Sidérales Soviétiques, vous prenez ce guide et façon guide du retard, vous avez toutes les régions à visiter, où loger, que manger, que boire, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Enfin, voilà. De toute façon, pas la peine d'emporter un appareil photo parce que vous êtes pris en photo partout où vous allez. Donc on vous enverra les photos. Voilà, c'est un guide humoristique. Donc on aime bien. Autant on a une éditoriale, on va peut-être en parler, mais avec des sites de fantasy qu'on aime beaucoup parce que c'est un goût personnel sans doute, mais j'aime beaucoup ces sites-là. Mais après, il faut aussi pouvoir aller de temps en temps sur des choses un peu différents.
Bon, alors, sur des gens un peu différents, tu vas même vers du très différent. Il y a eu le colloque universitaire sur le transmédia, les éditions Léa s'inscrivent parfaitement dedans avec le jeu de rôle quand même.
Tout à fait, quand j'ai lancé Léa au tout début, je disais que notre volonté c'était de casser les murs. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le mépris de classe qui existe de la littérature blanche vis-à-vis de notre littérature imaginaire. Et j'ai toujours trouvé que c'était une sorte d'indécence totale de mépriser comme ça la littérature imaginaire, alors que bon, il y a très grands livres de la branche, même moderne, hein, il n'y a pas que Gilles et Camus qui existent, hein, il y a aussi des auteurs modernes qui existent, mais bon, voir certains auteurs modernes se contenter de nombril pendant 250 pages, bon, ok, c'est rigolo, mais il faut lire ça au troisième degré. Et donc, il y a ce mépris-là de classe entre la branche et la littérature imaginaire. Il me semblait, il y a quelques années, quand j'ai lancé l'IA, le retrouver entre la littérature imaginaire et le jeu de rôle. C'est-à-dire, dans la littérature imaginaire, considérer le jeu de rôle comme un peu parent pauvre univers, non pas des gens très sérieux.
Mais si, parce qu'on en parlait hier au colloque pour la table ronde de fin, Fabien Fernandez disait que en fait, les auteurs, maintenant, ils font leur coming out et ils disent qu'ils faisaient du jeu de rôle, en fait, qu'ils étaient rôlistes. Comme si, finalement, avant, on ne disait pas trop.
Mais pas plus tard que. Honnêtement, je te dis, quand j'ai lancé l'IA, on l'a lancé officiellement à 5 ans, mais la réflexion remonte aux 2 années précédentes. Et je regardais. Le fait est que quand on regarde objectivement, la grande majorité des auteurs d'imaginaire viennent du jeu de rôle. On peut citer en France Jaborski, Chéroufi, François Frappal sur ADD, etc. Alors, on peut en citer aux États-Unis, George Martin en rôliste, Steven Erikson en rôliste, etc. On en trouve de partout. Et pourtant, la littérature imaginaire considérait que le jeu de rôle était un sous-genre pas intéressant. Erreur majeure, parce que les gens qui font du jeu de rôle sont des gens qui sont très créatifs, qui créent des univers, qui créent des personnages, des choses. Ça ne veut pas dire que c'est d'écrire des romans, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, le lien mérite d'être fait entre les deux univers, la littérature et le jeu de rôle. Et je me suis dit à l'époque, on va faire une maison qui, dès le départ, qui d'emblée fera à la fois le roman, le jeu de rôle. Quand ça a du sens, on relie les deux. Quand ça n'a pas de sens, on ne relie pas. Et on fait du roman pour le roman, du jeu de rôle pour le jeu de rôle. Et donc à l'époque, j'avais fait une interview dans laquelle je disais qu'on voulait casser les murs entre les gens. C'était ça un peu l'idée.
Bah, comment ça marche, Chico, pour les jeux de rôle? C'est toi qui vas chercher des auteurs ou est-ce que des gens arrivent en te proposant quelque chose?
Principalement, je vais chercher des auteurs. Non, c'est principalement une démarche proactive. Alors, je reçois aussi des jeux de rôle. Tout comme on reçoit des manuscrits romans, on reçoit aussi des manuscrits de rôle assez régulièrement. Mais c'est plus une démarche proactive de notre part parce que le jeu de rôle est beaucoup plus compliqué. C'est ça le paradoxe quand on voit le sujet mépris de classe du jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est très compliqué à produire. Très compliqué à faire parce que il y a tout l'univers à créer, bien évidemment, mais il y a aussi le système de règles à gérer. Et après, en termes de création matérielle, ce sont des livres. Maintenant, c'est quand même plutôt des beaux livres, les jeux de rôle, donc il y a beaucoup de travail d'illustration, de maquette, etc. Donc c'est énormément de travail.
Et de diffusion aussi, puisque c'est pas le même circuit.
Diffusion. Et alors, ça, c'est une petite fierté qu'on a. Bon, elle est petite, hein, on a réussi à. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement du livre, mais l'éditeur en général travaille avec ce qu'on appelle un diffuseur et un distributeur. Le diffuseur, c'est finalement son réseau commercial qui va aller vendre vos livres dans toutes les librairies de France, de Belgique, du Québec, etc. Le distributeur va lui, c'est la Russie qui va envoyer les cartons. Notre diffuseur, initialement, c'est un groupe qui fait beaucoup de BD, de romans, etc. Mais le jeu de rôle, ce n'est pas leur tasse de thé du tout. On a réussi à leur faire vendre un peu de jeu de rôle en librairie, dans ce genre de choses. Mais parallèlement à ça, on a aussi un diffuseur-distributeur spécialisé dans le jeu, qui lui va vendre en boutique de jeu.
D'accord. Alors si on vient sur les livres eux-mêmes, tu nous as expliqué, donc on avait, tu as eu Pierre Bordage en premier contrat, c'était assez ambitieux. En même temps, c'était une belle occasion pour lui, puisque c'est un texte qu'il a envie de faire depuis longtemps, et a priori, il va continuer. Donc c'est une bonne chose, non? Qu'est-ce que tu as d'autre?
Il n'a pas arrêté d'écrire de moi après nous.
Non, mais il n'a pas l'air malheureux d'avoir été avec toi.
Non,
il
n'a pas
l'air
malheureux.
Quels autres auteurs francophones, français, tu as envie de mettre en avant dans ce qui a été publié pour l'instant?
Aujourd'hui, ouais, c'est difficile parce que tu cites tout le monde, tu cites personne quelque part.
Moi. Alors peut-être ceux qui sont là.
Alors, parmi les présents, on a la chance de travailler avec un binôme assez incroyable, parce qu'on a fait la novélisation des Chroniques de la Lune Noire, qui est une bande dessinée culte des années 90, qui a en termes de style, représente peut-être une époque donnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la novélisation avec Jeanne. Alors, cette BD a été scénarisée par François Frappal, qui est un des grands messieurs de la fantaisie française qui a créé cet univers-là, mais qui a aussi été un des auteurs de pas mal de livres du monde du Donjon et Dragon, de l'époque de Gary Gygax, dans la création des années 80. Donc c'est une personnalité, des livres qui ont été vendus à plusieurs millions d'exemplaires en Europe, donc ça situe tout de suite le niveau. En revanche, on voulait moderniser un petit peu les chroniques, et avec l'arrivée de Jeanne à Debat. Toujours l'AS. On a une autrice féministe, engagée, quelque part on peut dire à l'opposé de ce que pourrait être les chroniques qui représentent un peu, d'une certaine façon, une partie du jeu de rôle gros bourrin. Et du coup, Jeanne apporte un éclairage et une vision un peu différente du sujet. Elle féminise aussi, on a bien rigolé, des personnages au grand dam de François, donc c'est assez marrant. Et du coup, ça fait un livre qui, tout en suivant l'histoire originelle, fait un pas de côté là aussi sur la façon de le raconter, de le présenter. Donc c'est assez rigolo. Et donc ça, c'est une chance là, parce qu'on a quand même deux des très grands auteurs français de fantasy et de SF qui sont sur ce projet-là. Et on a Philippe Tessier aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un auteur très talentueux, puisqu'il est assez protéiforme, parce qu'on a à la fois Polaris, un univers de SF sous-marine hyper intéressant. Il y a le fameux Mort, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un tout petit livre, mais extrêmement drôle. C'est une sorte finalement de conte philosophique sur l'humanité qui a disparu. Ils se retrouvent tous sur Terre, ils sont morts, ils ne savent pas pourquoi, ceux qui sont réanimés. Ils vont essayer de partir à la quête de la vie, essayer de ramener la vie sur Terre. Et c'est fait de façon très très drôle. Il y a aussi des chroniques hératiques, et aussi une forme de conte, de fantasy. Donc ouais, on a la chance d'avoir des auteurs qui sont à la fois talentueux et à qui on aime passer du temps.
Oui, parce qu'au niveau du travail, donc toi tu travailles avec les auteurs pour adultes, et en jeunesse, c'est Bluen qui...
En jeunesse, Bluen travaille sur les...
D'accord.
Bluen et moi travaillons sur les jeunesse. Ouais.
Et de fait, on arrive à cette question qu'on a légèrement évoquée au début, c'est là, vous avez plus le temps beaucoup de lire en dehors, et même les manuscrits de jeunes auteurs, alors que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, c'est un peu compliqué. C'est la rançon du succès, il y a trop de travail.
Oui, c'est si on veut résumer la situation, la réussite du Guide des Martyrs nous a fait sans doute gagner 5 ans de nos éditions, sauf qu'on n'a pas eu l'organisation qu'on aura dans 5 ans. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de mettre en place maintenant pour pouvoir que j'arrête de bosser tous les week-ends tout le temps, que ma femme m'engueule, etc. Quoi, tu vois. Et en même temps, tu peux pas descendre du vélo non plus. Parce que quand on est maso, on a quand même lancé beaucoup de séries très ambitieuses, notamment de fantasy, donc c'est un travail colossal. Mais, c'est ce qui fait aussi qu'on apporte des choses aux gens, je pense.
Je crois que tu es aussi très ambitieux dans ton rapport aux auteurs et aux autrices. Tu as quand même envie de construire quelque chose de qualité. On est bien chez Léa, non?
Je crois qu'on peut poser la question. C'est, comment dire, c'est... alors, et ça, tu la touches, hein, c'est très important. C'est que être bien avec les auteurs, c'est tellement important que ça me fait poser des questions sur la suite. C'est comment tu gères... Là, la chance qu'on a, c'est qu'on a une relation avec nos auteurs qui est... des amis, quoi, finalement. Quand on est ensemble sur les salons, on est en train à Lorraine et à Julien, alors sur les salons ici. Alors ici, c'est cool parce qu'en tant qu'éditeur, on se balade, on discute, on boit des coups, on va manger. Mais on est aussi sur les salons où on a les stands, nous, tu portes les cartons, Octogone au mois d'octobre, où tout le monde a dû partir et tu te trouves avec ton diable et tes cartons sous une pluie battante, aller remplir ta bagnole, etc. C'est moins fun dans cette cas-là. Mais du coup, avec tous ces auteurs-là, et depuis le départ, on a aussi créé une relation extrêmement forte, extrêmement proche. Et ça, c'est très important parce que je crois que l'âme, quelque part, d'une maison d'édition, ça doit se ressentir. Et quand tu vas sur un stand de Léa, on était à Troll et Légende il n'y a pas longtemps, avec un auteur, ou quand tu nous rencontres ensemble, tu vois qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose-là, il est extrêmement important. Je rappelle le nom de ma société, de ma maison d'édition. Ces dimensions personnelles, interpersonnelles et familiales, enfin pas du familial, mais entre guillemets, elle est très importante. Donc du coup, le lien que tu as avec les gens, il est hyper important. Et la question que tu te poses dans ces cas-là, genre, vivant là finalement, parce que je vais manger, pas psychanalyse, c'est quand tu as une croissance comme ça, que tu développes énormément, tu vas intégrer de plus en plus de monde, plus tu intègres de monde, quelque part, plus tu prends le risque de diluer ce sentiment-là. Et ça, je n'ai pas envie de diluer, donc c'est une vraie question de... Et malheureusement, on n'a pas pu le voir parce qu'il a été covidé. Il a dû rester à Paris. Mais Brian McLellan, l'auteur de Les Poudres Mages, qui est venu en France pour les Imaginales, le pauvre, et qui ne peut pas être là malheureusement, c'est un mec extraordinaire, qui aurait passé du temps à Paris. Et il est dans cette veine-là, quoi, tu vois, c'est quelqu'un de à la fois de très sérieux dans ce qu'il fait, mais qui ne se rend pas du tout au sérieux. Et moi, c'est philosophiquement parlant, c'est une philosophie de base, c'est faire les choses sérieusement, mais sans se rendre au sérieux. Et quand tu le rencontres, bah, tu as envie de passer du temps avec lui, il est hyper sympa, tu discutes plein de choses, de littérature, aussi de la vie, de plein de trucs. Et voilà, j'ai pas envie qu'on bascule un jour dans le côté obscur de l'édition, des égos, des trucs, des machins, des disputes entre les gens parce que je sais pas quoi. Ça, j'ai pas envie.
Oh, mais ça va pas arriver.
Ah bah non, je suis là.
Est-ce que le temps file, on a encore plein de choses à raconter si vous le souhaitez, et en même temps, je trouve ça important que vous puissiez poser des questions si vous le souhaitez. Pour savoir comment ça marche, parce que bon, c'est quand même l'intérêt, là vous l'avez sous la main, même s'il est très accessible et très humain comme vous le voyez, bah, il court beaucoup, donc tant qu'il bouge pas, vous avez peut-être des questions à lui poser. Non? Alors je répète pour tout le monde, donc en termes de chiffres, combien de personnes travaillent dans l'entreprise et combien de livres vous sortez par an?
Alors sur l'équipe en tant que telle, on est en interne, on est trois à temps plein. Et après on a des gens qui travaillent à temps partiel et qui du coup sont externes. Et on peut identifier trois personnes qui sont à temps partiel très réguliers pour nous, mais qui sont partagées avec d'autres entreprises, d'autres clients. Sur les parutions, confère la discussion d'avant. Si tu fais demain 40 parutions par an, la discussion que j'évoquais, elle va arriver très très vite. Donc pour arriver à ce stade-là, il faut avoir vraiment mis en place des garde-fous importants. Aujourd'hui, on est sur une logique de 15 à 20 sorties par an. Mais c'est intéressant parce que quand on parle à beaucoup de gens, c'est un des sujets évoqués sur la littérature imaginaire. Il y a parfois une course à l'échalote sur le fait de sortir beaucoup, beaucoup de livres. C'est extrêmement dangereux. D'une part, parce que fondamentalement, tu ne peux pas défendre autant de livres que ça. Si tu es une grande entreprise, que tu as 20, 30, 40 personnes d'entreprise, il y en a quelques-unes dans le secteur, elles sont rares, mais il y en a quelques-unes, tu peux gérer autant de sorties, c'est possible. Mais quand tu es des petits éditeurs comme nous, j'inclus les Indes Imaginaires, tous les autres, on est encore entre guillemets des petits éditeurs, on est des chefs de réduits. Sortir énormément de livres, c'est très dangereux parce que tu as du mal à les défendre en fait. Donc si tu veux pouvoir les défendre, il faut avoir une quantité qui rend possible. Donc 15-20, c'est gérable. Surtout après tu as des suites. Une fois que tu as lancé un tome 1 et que tu l'as bien défendu, qui démarre très très bien, le tome 2 est plus facile à défendre que quand tu... Donc 15-1, c'est un bon étiage, je pense, mais en vrai, ça aura vocation à augmenter aussi, sans doute. Pour l'instant, c'est sûr qu'on est à la zone.
Et du coup, c'est 15-20 grand format? Tu fais pas de poche, de semi-poche?
Non, c'est on est pour l'instant, on est sur du grand format. Est-ce qu'on fera du poche? Ça, j'en sais rien. La question peut-être se posera à un moment donné, mais pour l'instant, on fait du grand format.
D'accord. Et sur cette répartition, combien en jeunesse, combien en vieillesse, combien en jeu de rôle?
En vieillette, c'est à vous qu'elle parle, hein, pas bien. Quand je disais ça, j'excuse le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est. Les parutions du jeu de rôle sont plus aléatoires. Si le jeu de rôle en sort un des quatre par deux ans. C'est encore. Le jeu de rôle, c'est encore. Alors, travailler avec des auteurs, vous allez comprendre. Travailler avec des auteurs de jeux de rôle, vous allez comprendre encore mieux. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que la partie jeunesse, l'événement de jeunesse, elle a un an. Donc elle est en phase de décollage. Elle est très bien soutenue par la série Sugar Plums, qui marche très très bien. Même moi, je suis à public, et pourtant j'adorais. C'est un trône de fer girly. Mais du coup, on est sur une logique, je pense, 80-20 pour l'instant. 80 adultes et 20% jeunesse, ce qui correspond à peu près à ce qu'on fait. Après, ça va évoluer, mais le jeunesse a vocation à prendre plus de place, puisqu'il est en phase de lancement là depuis un an. Donc voilà, c'est une maturation lente dans l'édition, donc il faut le temps de trouver les textes, trouver les auteurs, toutes les choses, et que ça se mette en place.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Pour les titres qui étaient sortis chez Nix, est-ce que des chances de voir les suites sortir chez Léa ou est-ce que c'est des choses qui vont être...
Alors, sur le fond Lynx, ce qui a été repris, est-ce que tout va être réédité? Est-ce que les suites vont être éditées?
Alors, sur le fond Lynx, il y a certains titres qu'on a déjà réédités, qu'on a repris, et d'autres sur lesquels on rend les droits aux auteurs. On ne veut pas tout rééditer parce qu'en fait, on se rend compte de la chose suivante, c'est que malheureusement, les rééditions, c'est un sujet qui est très délicat à gérer, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis des diffuseurs. Donc, le problème que l'on a, alors, donc on a réédité une partie, hein, il n'y a pas de problème, mais si on fait trop de réédition, on risque de s'auto-noyer dans la réédition. Et du coup, d'avoir une image très détériorée par rapport à ça. Donc, on a dû faire attention, on en a fait qu'un certain nombre. Puis, dès le départ, il y en a un certain nombre qu'on avait prévu de rendre aux auteurs.
Et les suites, du coup
Alors, ceux sur lesquels on a fait la réédition, on est dessus. Et les autres, je ne peux pas me prononcer pour les auteurs à qui on a rendu le droit.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Alors, comment est-ce que tu découvres les séries anglo-saxonnes? Comment tu fais les choix? Quels sont les critères?
Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Non, c'est pas vrai. Tout à l'heure, on évoquait la ligne éditoriale, c'est très important. Alors, je ne sais pas si vous l'avez passé, mais on a annoncé il y a un an, quasiment, en juin 2021, une grande offensive dans la fantasy, dans les séries de fantasy anglo-saxonnes qui a déjà eu un certain succès international. Souvent, c'est des séries qui sont vendues entre 400 000, 500 000 et 1 million d'exemplaires, traduites en 10 à 20 langues, etc. C'est un critère déjà d'aller sur des séries de fantasy qui ont cette ampleur un peu à la Ericsson, c'est ça qu'on cherchait en fait. Et partant de là, tu regardes ces genres de séries. Parce, à l'époque, pourquoi on a fait ça? Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Quand je suis arrivé au top 6 d'Ericsson, je me suis dit, ouais, super top 6, on savait qu'on irait au bout, mais là, c'est sûr, on va au bout et pas de problème. Sauf que demain, c'est top 6, il reste 4 tomes, 4 tomes, ça fait 2 ans. Et on fait quoi après? C'est ça, toi, parce que Ericsson, pour nous, c'est énormissime, c'est un enjeu colossal, ça représente une grande partie de nos ventes. Et une fois que tu as fini, qu'est-ce que tu fais? La première mission, c'est que c'est du temps long. Donc, si à 2 ans, il faut que tu saches ce que tu fais après le tome 10.
Et là, tu sais déjà.
Ah ouais, bah, on y est, tu sais. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, on va, puisque Ericsson a bien fonctionné, et qu'on a une certaine légitimité dans la littérature de fantasy, avec Ericsson, mais aussi avec des auteurs français, parce qu'on a fait soit Louis Martini, soit les petits flamands, soit les chroniques, etc. Ben, on va revenir sur des sujets de séries fantasy anglo-saxonnes. Mon sujet principal sur le choix de ces séries-là, c'est que je cherche des séries, c'est très compliqué ce qu'on cherche, en fait. Vous voyez le truc au milieu entre les lattes, hein, imaginez, c'est ligne de crête. D'un côté, vous avez le commercial, de l'autre côté, vous avez le nombril. Il y a une ligne de crête entre les deux, où on a à la fois des sujets de fond, c'est-à-dire des livres qui amènent on ne fait pas de côté classique de littérature imaginaire, mais sur lesquels on a des sujets de fond importants, qui permettent d'avoir une réflexion, et en même temps, sur lesquels on a une dimension, en anglais, dit ça, entertainment, on ne s'ennuie pas. L'idée, c'est de pouvoir avoir une fantaisie à la fois qui soit une distraction, un plaisir de lire, mais dans laquelle on a aussi une dimension de réflexion. C'est ça la ligne de crête que j'ai choisie. Et du coup, partant de là, ben, on cherche ce genre de titre-là. Et on a identifié un certain nombre d'auteurs qui existaient dans ce genre de littérature. Et qui avait déjà eu un grand succès international, c'est plus facile de défendre un auteur dont on sait qu'il a déjà marché international qu'un auteur qui a marché. Donc du coup, on a identifié des séries, des auteurs qui nous intéressaient, et après on entre en contact avec les gens qui gèrent leurs droits.
Tu vas dans des foires à l'étranger ou
Pas encore, mais c'est une prochaine étape. François.
Oui.
Ça allait être ma question pour ce qui est des auteurs étrangers. Est-ce que vous vous intéressez à d'autres pays?
Oui, alors autre que anglo-saxon, de fait.
Autre que les pays anglophones.
On a commencé à avoir quelques contacts, mais là, c'est vrai, ça peut être intéressant, mais ça veut dire qu'il faut aussi, c'est un travail de longue haleine, parce qu'il va falloir mettre en place aussi toute l'organisation et la structure avec des traducteurs qui permettent de travailler correctement. Mais c'est quelque chose qu'on va commencer à réfléchir. Ouais. On n'a pas de piste particulière pour l'instant, mais voilà, on a eu quelques contacts, quelques idées. C'est encore très tôt.
On va bientôt arriver au bout. Et de fait, forcément, je vais terminer par la question rituelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce qui va sortir? Est-ce que tu as des surprises, des révélations ou juste nous parler des prochains titres? Qu'on nous attende, la
pour
teaser un peu pour Noël, ou même pour la plage.
Ah bah, alors pour la plage d'été, il y a Polaris qui est sous la bulle là. Donc c'est science-fiction sous-marine, donc c'est parfait pour la plage. Si on regarde, on a un automne, on a eu un printemps très riche en sortie fantasy, l'automne sera tout aussi riche. Si on fait par ordre décroissant de la date, on a pour la fin de l'année, si tout va bien, quelque chose qui est assez énorme, qui s'appelle le 10e et dernier tome du Livre des Martyrs. Donc c'est la fin, le 6e. Mais comme la fin appelle un recommencement, ben, on a le camestrement avec la voie d'ascendance qui est la préquelle qui vient de démarrer. Donc le 10e tome du Livre des Martyrs, c'est un moment très important parce que c'était le cycle maudit. Alors je dis ça aussi, mais je vais me faire casser par une voiture en sortir un pain.
Mais non.
Non, mais c'est comme tout le monde a dit, c'est un cycle maudit, donc tout le monde pensait qu'on pourrait pas le faire. Mais on va le faire, c'est cool. Donc ça, c'est le tome 10 qui sera à la fin de l'année. On aura le tome 3 aussi de la série Sous la Crown, ce qu'un Derbeck, j'en parlais tout à l'heure, en L2. Et on a aussi le tome 2 des Poudres Mages. Parce que comme c'est indiqué sur Catherine Le Couvre, on va sortir le tome 1. Le tome 2 est prévu pour septembre, et le tome 3 sortira au printemps 2023. Après, il faudra qu'on voit avec Brian McKellen s'il se sent de revenir en France un jour ou s'il était vacciné à vie du sujet, le pauvre, c'est le cas de le dire. On va faire arriver un nouvel auteur, un très grand auteur de la fantasy fin août, c'est John Wilde, sur une tétralogie. De fantasy assez monstrueuse. En anglais, c'est The Faithful and the Fallen. En discuté avec John Wayne et le traducteur, on a décidé de l'appeler autrement. On a appelé le livre Les Terres Bannies. Parce que Les Terres Bannies, c'est l'endroit où ça se passe. C'est en accord avec l'auteur, donc on a parlé longuement avec lui. Il a dit effectivement The Faithful and the Fallen en français, en traduit en français, c'était vraiment pas terrible. Donc le livre Les Terres Bannies, c'est de la grande fantasy un peu. On le présente souvent comme le successeur de Kemel. On dit, quand on analyse, c'est un peu le. C'est un peu le, comment dire, la réunion réussie de Martin, de Tolkien et de Gemmel. Enfin, il prend aux trois. Ça pourrait faire bizarre de venir comme ça, mais c'est très, très, très réussi. Donc ça, c'est un auteur très attendu, gros auteur de fantasy. Et si je vous fais une petite confidence, c'est pas la seule série qu'on aura avec lui.
Ah, merci beaucoup.
Ouais, tu veux un secret.
Bon, merci énormément. On va être obligé de finir. Merci à tout le monde et longue vie aux éditions Léa.
Merci. Avec plaisir, si vous avez des questions, j'ai mis la chemise rose comme ça, vous ne pouvez pas me rater. Et si vous avez des questions, vous ne pouvez pas poser en public parce que pendant des années, j'ai eu du mal à poser des questions en public, ça m'a toujours un peu stressé aussi. Voilà, si on se croise, n'hésitez pas, moi je réponds avec plaisir. Le plus grand plaisir que l'on a en tant qu'éditeur, je vais juste dire en conclusion, c'est pourquoi tu crées des éditions en fait. Au début, je t'ai expliqué que c'était pour défendre le genre. Mais défendre le genre vis-à-vis de ceux qui. Mais en premier lieu, c'est d'apporter ce qu'on disait tout à l'heure, du côté de la réflexion, du plaisir, de l'émotion au lecteur. C'est ça qui nous importe. Et moi, quand je dis ça, j'ai des poils qui se dressent. C'est le plus grand plaisir que j'ai, c'est les messages qu'on reçoit de sympathie, d'amour, je dirais quasiment. De vous, de tous les gens qu'on croise, que ce soit par Messenger, par mail, dans les années-là, des gens qui viennent te remercier de ce que tu fais en te disant vous m'avez apporté quelque chose. Et voilà, quand tu te dis que ton travail permet d'apporter que ce soit du bonheur, du plaisir, de la réflexion n'importe quoi aux gens et qu'ils t'en remercient, je crois que tu as réussi ce que tu as envie de faire.
Ouais, c'est réussi. Merci beaucoup.
Merci.